C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Créateur Beau Willimon, né en 1977, américain, dramaturge, auteur de 6 pièces de théâtre, créateur et l'un des 13 scénaristes de la série House of Cards, politique, démocrate. Il est actuellement un activiste anti-Trump, ayant par exemple organisé une marche sur Washington contre le suprématisme blanc. Orientation sexuelle inconnue. Œuvre la série télévisée House of Cards, commencée en 2013, à l'heure où nous en sommes, 5e saison. Personnage, Claire Underwood. Adaptation, cette série est elle-même une adaptation d'une série britannique du même titre, diffusée en 4 épisodes en 1990. Cette Claire est bien trouble. Son apparence de droiture, son élégance qui n'élève jamais la voix devrait nous inquiéter, même si nous ne savons rien d'elle. Elle est douce. Et la douceur, on s'en méfie. On lui préfère la tendresse. Évidemment, on ne peut pas demander ça à un homme ou une femme politique, à moins qu'elle ne soit battue. Ça m'a frappé dans le livre de Hillary Clinton sur sa dernière campagne présidentielle. Elle s'émerveille d'une proposition du peuple qui a récemment demandé, dit-elle, une révolution de la tendresse. Et elle ajoute, quelle phrase ! Il n'avait tenu qu'à elle de la prononcer quand elle était candidate. Elle, la femme d'un président de République comme Claire Underwood, elle qui sera peut-être un jour transformée en personnage de fiction puisqu'elle a perdu et va s'éloigner dans les mémoires. Ses caractéristiques ne seront plus indissociablement attachées à sa personne, comme un président élu trop caractérisé pour pouvoir devenir un personnage. Hillary Clinton finit son livre en disant « Il faudra que le Parti démocrate redevienne le meilleur en Internet et en analyse des données ». Éclate là son application de moyenne de la classe pas très brillante qui arrive à force de travail. Ah, ça ne fait pas envie. L'électorat qui s'embête et s'ennuie de l'école au tombeau veut un peu de rapine, de la prestidigitation, et voilà comment, il va jusqu'à applaudir l'imposture. Il s'est agenouillé devant Berlusconi, Sarkozy, Chavez, Trump. À la laborieuse de la classe, il préfère la brute qui terrorise les plus faibles, harcèle les filles, rote et pète. Si, si, Donald Trump rote et pète, ce sont ses tweets. Le créateur de House of Cards a dit qu'il n'aurait jamais pensé que pire que sa série aurait pu advenir, ce qui tend peut-être à prouver qu'il a une imagination limitée, comme si Nixon n'avait pas existé, comme si George III d'Angleterre n'avait pas existé. Un des avantages de House of Cards, c'est que c'est mal écrit. Surtout la 5e saison. Les chefs d'État, comme on dit, parlent plus volontiers en clichés, lieux communs et imitations du style des films d'action que comme dans Racine ou Tolstoï. Les dialoguistes ne l'ont peut-être pas fait exprès, mais ils arrivent ainsi à un sidérant effet de démonstration de la médiocrité fréquente du pouvoir. C'est sidérant parce qu'on se dit que c'est cette médiocrité qui décide du sort des gens intelligents. Mais les intelligents sont si minoritaires, ça n'est pas à eux que parlent les Underwood, le couple du président des États-Unis et de sa femme. Ils cherchent à les subjuguer et à écraser leurs concurrents au moyen du cynisme et de la ruse. Pour parler du personnage de Claire Underwood, je reçois Luc Levaillant, auteur de La vie rêvée des filles chez Fayard, et responsable des pages portraits de Libération, où il a récemment écrit un brillant portrait de ce personnage. Luc Levaillant, la série de la BBC originale était plus centrée sur les personnages masculins et la version américaine a cette originalité précisément d'avoir inventé le personnage de Claire Underwood. À quoi ressemble-t-elle physiquement pour les rares qui n'auraient pas vu la série?
Claire Underwood, c'est Robin Wright qui est une actrice qui a une longue carrière, qui a débuté doucement dans Santa Barbara et qui a pris son envol à la quarantaine. C'est une femme maintenant d'une cinquantaine d'années, mais qui entre ses 40 et ses 50 ans a réussi à marier le cinéma indépendant et aussi des blockbusters. Et donc c'est un personnage d'une femme d'une quarantaine d'années, assez grande, blonde, d'une certaine froideur, même si elle n'est pas hitchcockienne, et qui a donc, avant cette série, qui a une existence et une envergure symbolique, parce que les actrices sont également des personnages. Elles se mettent en scène via Instagram maintenant ou autre, mais elles ont aussi un potentiel symbolique important qui se mélange avec leurs personnages.
Et quel est le potentiel symbolique de Robin Wright, à part le personnage donc?
Robin Wright, c'est la réussite d'une femme mature, qui était une bimbo ou une débutante sans grande envergure, qui a sans doute été validée par son mariage avec Sean Penn, et qui a une aura artistique plus importante que la sienne, mais qui a un peu cannibalisé l'aura de son mari, mais qui est sorti de son ombre et qui a réussi à être désiré ensuite par différents metteurs en scène, et en particulier, je l'aime beaucoup dans un film de Anne Fontaine qui s'appelle Perfect Mother.
On peut d'ailleurs dire que Robin Wright est devenue plus belle en vieillissant.
Oui, je pense qu'elle correspond plus au désir de l'époque. On n'est plus dans la jeune première, et puis ensuite dans les Bette Davis. On passe plus ça. Il y a tout un potentiel sexuel et qui perdure à la quarantaine. La femme de 30 ans de Balzac, ça fait longtemps qu'elle en a 50, sinon 60.
Donc vous disiez qu'elle n'est pas hitchcockienne, mais elle a quand même ceci d'hitchcockien, qu'elle a quand même... pas les cheveux courts, parce que chez Hitchcock, elles n'ont pas nécessairement les cheveux courts, mais quand même le tailleur. Alors, évidemment, la fonction le demande aussi, mais...
La fonction le demande complètement, et il y a une sorte oui, c'est une icône de mode. Alors, on va voir là, parce qu'en fait, tout on part d'une conseillère de son mari, d'une femme d'eux, qui petit à petit s'émancipe, se met à niveau, passe elle aussi aux actions... shakespearienne, sinon tranchante, sinon voilà, elle passe aussi par le meurtre pour être à égalité avec le mari, et donc il y a une sorte de, elle gravit pas à pas les marches du pouvoir, vice-présidente, présidente par intérim, et elle va finir par prendre le pouvoir et donc par déposséder un peu son mari. Donc on est quand même dans une sorte de classique d'aujourd'hui d'ascension féminine au détriment des hommes, vu qu'il n'y a qu'une place.
Laquelle ascension se produit au fond assez peu dans la vie matérielle. On a assez peu vu ça, non? Puisque
ça
par
vient,
exemple,
vient,
François Hollande a pris
la présidence. C'est vrai qu'en France, comme aux États-Unis d'ailleurs, ça résiste encore. Mais l'Allemagne, l'Angleterre, et l'Angleterre, c'est pas la première fois. Thatcher avait été quand même le personnage de prise de pouvoir assez précoce dans le monde occidental, mais je pense que ça résiste encore, mais c'est en train de venir.
Alors, la liste des saloperies, si on me passe ce mot, que commet Claire Underwood est plus longue que celle de Louis Aragon, et la différence, c'est qu'Aragon était un hystérique et que elle, dans son rôle en tout cas, est d'une férocité placide. Ça, je trouve ça très intéressant.
Tout à fait, et un peu mélancolique, un peu chez elle, autant on sent la jouissance un peu crapule de son mari, autant chez elle, ça ne se voit pas beaucoup. Et donc, il n'y a pas du tout... l'affect et les émois sont assez faibles, oui. Sont assez affaiblis, et ce qui donne d'ailleurs un ton assez plat au film, à la fois triste et plat. Alors que l'action elle-même est assez violente ou assez machiavélique, mais il y a une sorte de mélancolie grise un peu, qui comme ça se mélange avec la Maison Blanche, lieu totalement surconnu, aujourd'hui atténue ou grise un peu le décor et l'ambiance.
Autant son mari est sanguin et peut avoir des colères, elle, on le voit par exemple dans la saison où sa mère meurt, elle reste complètement placide. Ouais. Est-ce que c'est une qualité singulière des politiques? Est-ce que c'est une valeur de contraste qu'ont voulu les scénaristes? Est-ce que...
Que dire là, je ne sais trop. Est-ce que les politiques ont ça? Oui, il serait souhaitable qu'ils l'aient. Enfin, je pense que Sarkozy est un contre-exemple parfait. Ensuite, je pense que le côté shakespearien de nos deux amis, son côté Lady Macbeth à elle, comment dire, ça marche mieux quand c'est aplani aussi, quand on ne voit pas de l'hystérie et du sang partout. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Il y a une autre série qui s'appelle Scandale, qui se passe également à la Maison-Blanche, et où on a des communicants, une communicante en période de... une conseillère de crise, et là ça tambourine plus, ça y va plus, il y a plus d'affect démonstratif.
D'ailleurs, ce qu'elle a d'intéressant, Claire Underwood, c'est que parmi tous ces défauts de violence froide, elle n'a pas un défaut fréquent des politiciens, c'est la cupidité. Et de son mari non plus d'ailleurs, il dit qu'il préfère le pouvoir à l'argent. Et d'autre part, il y a une chose qui me frappe, c'est que dans la mesure aussi où elle n'a pas d'enfant et rien à transmettre, elle veut le pouvoir pour le pouvoir. Est-ce que c'est une artiste du pouvoir?
Il me semble intéressant que ce couple n'ait pas d'enfant. Et d'ailleurs, ça évoque aussi la non-paternité de Macron aujourd'hui et son couple un peu particulier. Comme le couple des Underwood est particulier, celui des Macron est aussi particulier. C'est pas le même particularisme, hein. C'est pas le jeune et la dame d'âge et qui, elle, a fait famille, lui qui ne l'a pas fait. C'est-à-dire le père de la nation nulle part, qui est Macron, est intéressant. Chez les Underwood, dans le portrait un peu imaginaire, hein, que j'ai fait d'elle, j'imaginais que leur analyse était qu'ils n'avaient pas réussi à qui s'étaient éjectés du pouvoir parce que justement ils n'avaient pas ce rapport à la descendance et qu'il était difficile de fonctionner avec un peuple quand on n'a pas d'enfant parce que c'est l'archaïsme du pouvoir qui se voit toujours des pères ou mères de la nation avec un peuple enfant, ce qui est un peu ridicule aujourd'hui, mais parfois ça revient.
Ce qui est intéressant dans le personnage de Claire Underwood, c'est que autant son mari est stable et toujours le même, elle évolue. Et elle évolue en mal d'ailleurs, ce qui est intéressant.
Elle évolue en mal, mais ça lui donne donc cet accès au pouvoir. Donc c'est une vision assez noire du pouvoir que je ne partage pas moi.
Non.
Robin Wright dit que Trump leur a tout volé. Je pense que c'est une vision intéressante scénaristiquement. Le mal et le tragique est plus intéressant que la gaudriole pour tenir sur la distance. Je pense que le pouvoir, tant qu'il reste démocratique, est quelque chose d'estimable et d'intéressant et qui se soumet à l'évaluation des populations, des citoyens, ce qui n'est pas le cas du pouvoir économique, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pouvoirs artistico-symboliques. Enfin, c'est plus ambivalent, ça. Hein. On a la critique d'un côté et puis le spectateur donc qui vous juge. Mais le pouvoir démocratique, enfin, l'exercice de la responsabilité démocratique me semble tout à fait estimable, d'autant plus qu'on peut le critiquer et que ce que je vois, c'est que eux aussi ont à gérer ce côté d'être devenus un peu les bouffons qu'on baffe, quoi.
Vous parlez de qui? Des politiciens, oui, bien sûr.
Et des Underwood qui ont cette même difficulté.
En même temps, est-ce que dans la série, il n'y a pas quelque chose de guignolesque dans l'assassinat qui fait qu'on comprend que ça n'est pas réaliste et que c'est juste une fonction symbolique?
Non, je ne crois pas, parce qu'il y a aussi, on cache le... Enfin, comment dire? Il y a toujours cette histoire de la révélation. Enfin, l'assassinat n'est pas certain. C'est un objet de chantage, c'est un objet de déstabilisation.
Pardon de vous interrompre, mais l'assassinat est certain, puisque dès la première saison, on voit Underwood qui pousse lui-même la journaliste sous le métro.
Mais cet assassinat est évidemment caché et masqué par Underwood. Ça ne se révèle que publiquement, on met du temps. Mais 5 saisons avant que ça frémisse un peu judiciairement. Aux États-Unis, c'est quand même rare. La judiciarisation se fait dans les 5 minutes. Mais le meurtre n'est pas... le meurtre est... Il n'y a pas de plaisir de meurtre.
On n'a pas
Néron, on n'a pas...
C'est très utilitaire, oui.
Voilà, et on est chez les utilitaires, chez les matérialistes aussi.
Il y a aussi dans le personnage de Claire Underwood quelque chose de très intéressant, c'est que, comme son mari d'ailleurs, elle a une sexualité sans préjugés. Frank Underwood, président des États-Unis, est bisexuel. Dans la 5e saison, il a même une aventure avec son coach. Elle pratique des plans à 3. Et il y a là une liberté envers la maternité, on l'a vu, et maintenant envers la sexualité, qui sont une des ambiguïtés de la série, à mon avis, parce que ça sert visiblement à montrer qu'elle n'est pas bien, alors qu'on pourrait la féliciter tout aussi bien.
Pardon. Pour montrer qu'elle n'est pas bien.
Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que utilisé par les scénaristes pour montrer que c'est vraiment une salope.
Ne sais pas, ou alors c'est mon côté libertin qui parle, ou ma projection sur ce personnage plutôt sur Robin Wright et le personnage mélangé, hein, Claire Underwood, que j'apprécie plutôt.
C'est
bien pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Perfect Mother, où elle est également dans une quasi-transgression. Là, elle est dans une totale transgression. C'est-à-dire, elle montre que le couple peut exister en dehors de la sexualité. Enfin, ou avec une sexualité lointaine. Parce que effectivement, elle organise les plans à 3 avec le garde du corps ou autre. Elle a des amants et son mari parfois vient la chercher parce qu'il y a une crise à gérer et qu'il faut que... Mais je ne sens pas non plus chez elle, et c'est ça qui est intéressant, une insatisfaction qui serait mise en scène. Il y a une opacité du personnage qui donc résiste aussi au psychologisme moral. cette...
Non, mais moi, je trouve ça très intéressant et très bien. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que la série ou la façon dont les personnages l'ont conçue utilise cette sexualité assez libre pour prouver que vraiment, elle n'est pas bien?
Je ne suis pas certain. Enfin, je ne suis pas certain. Peut-être suis-je trop débauché moi-même pour y voir. Mais je ne suis pas certain que ce soit... Je pense que la sexualité n'est pas vraiment... Enfin... Comment dire que la sexualité n'est pas l'enjeu principal, alors qu'elle l'est beaucoup plus peut-être dans une série que j'aime beaucoup qui s'appelle The Affair, qui raconte une liaison et sur plusieurs points de vue. C'est, le mode de narration est très intéressant. Là, je pense que c'est un enjeu. Là, je pense que la sexualité chez les Underwood n'est pas centrale. Ils s'en éloignent parfois, que ce soit Frank ou Claire. Parfois, ce n'est pas le sujet. Ça ne leur sert pas non plus totalement à progresser au niveau pouvoir. Il y a un rapport à la fois assez décontracté et non essentiel.
Donc c'est le seul moment non utilitaire de la série ?
Quasiment. On peut sans doute trouver, vous voyez, j'ai pas tout en tête, on peut trouver des... Mais je pense que c'est pas au cœur de la... Dans Les Hommes de l'Ombre, qui est une série française sur le pouvoir avec Volkovitch, Carole Bouquet et tout, c'est plus présent. Là, c'est vrai qu'il y a une sorte de regard lointain sur la sexualité qui n'est juste qu'une sorte de dispositif un peu annexe. Enfin, on ne sent pas Claire Underwood, alors qu'elle a tout du personnage féminin, être une sentimentale totale. Enfin, elle a des accès de sentimentalité, mais qu'elle reprend en main, et le meurtre de son amant en est quand même un signe majeur de dissociation de la sexualité. Alors, est-ce qu'un homme ou une femme de pouvoir doit se dissocier de la sexualité ? Je ne trancherai pas, mais...
Nous allons maintenant entendre une femme de président de République qui était une populiste à robe longue. Cette fille venue du peuple savait manipuler les foules en faveur de son fasciste de mari en se faisant passer pour une sainte vierge. Je parle bien sûr d'Eva Perón. C'est extrait d'un discours du 22 août 1951 à Buenos Aires où elle clame que sa gloire réside dans le destin de son mari et est symbolisée par le drapeau de son peuple.
Je n'ai jamais rien voulu pour moi. Ma gloire restera toujours le destin de Perón et le drapeau de mon peuple. Et si je laisse en chemin des lambeaux de vie, je sais que vous vous servirez de mon nom comme porte-drapeau jusqu'à la victoire.
Luc Levaillant, ce qui est intéressant, vous allez me dire ce que vous en pensez dans cette série, c'est que le support, et le producteur l'a dit lui-même, a conditionné la forme de la même façon qu'au 19e siècle, on écrivait des romans très longs parce que les colporteurs de Hachette les vendaient en 3 volumes. Là, David Fincher a dit, c'était dans un entretien à Télérama en 2013, qu'il a fait cette série uniquement parce que c'était une chaîne du câble qui lui permettait de faire des séries de 12 épisodes et qu'il n'aurait jamais fait avec une chaîne hertzienne à l'époque où on faisait des saisons de 24 épisodes. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que la forme même et le support créent une densité, une tension, non ?
Si, tout à fait. Alors ce qui me semble encore plus intéressant aujourd'hui, c'est le brouillage du réel et de la fiction, qui est que ce soit dans Plus belle la vie, par exemple, qui se saisit des thématiques de débat du moment et les intègre quasiment au jour le jour parce que les délais de production sont très courts et ça se tourne, ces soap opéras d'aujourd'hui se tournent du jour au lendemain. Et c'est également vrai pour House of Cards ou toutes les séries politiques avec leur côté presque prescient. Enfin, de préscience, hein, ils ont quasiment anticipé Trump,
ouais.
ce qui est quand même pas évident. Le niveau de langue en moins, effectivement, mais ils ont quand même anticipé ça. Et donc, on se retrouve avec un brouillage, la consommation du spectateur aujourd'hui qui consomme ça de façon quasiment alcoolique, enfin binge drinking, enfin comme si on buvait les shoots de vodka à la file. Et donc il y a une sorte de on ingurgite ces séries de façon, on n'a plus ce rendez-vous, ce cérémonial un peu comment dire, religieux, où tous les lundis soirs il y avait Thierry Lafronde, où l'ensemble de la population. Donc il y a une consommation du politique qui se fait de façon carnivore et aussi on l'individualise. On mange ce qu'on veut dans et on mange beaucoup. Et tout ça crée une comment dire
une confusion.
Non, ça crée une absorption du réel par la fiction et réciproquement. Chacun se mange quoi et on y contribue. Je n'ai pas de jugement très précis sur ce que ça brouille effectivement le réel et le mais bon voilà, c'est l'époque numérique qui veut ça où il y a moins de distance à la fois entre la fiction des séries et le réel politique ou sociétal et il y a à la fois moins de distance et puis ça la fiction précède ou suit tout. Les choses se mélangent, s'agglomèrent, et je ne sais pas si ça nous rend schizophrène. Je ne suis pas du tout dans la dénonciation. Il y a juste une sorte de capacité d'abord de la fiction à rendre compte du réel, mais elle le faisait dans les feuilletons de Balzac et autres. Mais ça va beaucoup plus vite, et c'est l'un parle à l'autre, quoi.
Oui, c'est frappant ce que vous dites, car à la troisième saison, il y a eu un tweet resté fameux de Barack Obama, alors président, disant « Attention, la série commence, no spoilers, pas de fuite, en quelque sorte ». Et c'est assez frappant, car on aurait pu penser qu'un président de République en exercice aurait pu dire, ou ne pas en parler d'abord, ou dire « Tout ceci n'a rien à voir, c'est des horreurs, etc. » Donc finalement, vous avez raison, le réel accepte le mélange de la fiction, alors que ça pourrait être un danger. Ou est-ce que c'est la suprême ruse de faire comme si ?
Oui, je pense qu'à la limite, peut-être qu'on verra un président imiter un personnage de fiction, vu les proximités qui.
Mais je pense qu'ils le font. Vous savez, je pense que Sarkozy imitait des films américains
C'est un modèle. Oui, oui. Comme il y a des modèles de romanesque qui sont plus estimés que les modèles de séries télévisées. Je pense que de façon consciente ou non, il y a effectivement une appropriation des voilà. Alors après, parfois aussi le réel politique français, par exemple, mais américain aussi, a une sorte de génie que le moindre scénariste aurait du mal à suivre, que ce soit l'histoire Hollande, Ségolène Gayet ou DSK. Enfin, et là je parle que des choses un peu cotillons et moustillants, mais il y a aussi une parfois c'est assez insensé la façon dont.
Alors, ce qui est aussi une chose frappante à propos du personnage de Claire Underwood, c'est que je n'ai pas particulièrement vu de féministes parlant de ce personnage,
ils ne peuvent pas l'aimer.
Et voilà, c'est ça.
Les féministes ne peuvent pas aimer ce personnage parce que à la fois il y a une ascension, mais elle n'est jamais dans la sororité. Hein, elle ne s'en sent pas dépositaire et elle agit. Et elle passe son temps à agir comme si elle n'était pas à se dégager de ses déterminismes féminins. Alors on peut juste dire qu'elle est sans doute moins agressive dans son propos ou dans sa façon d'être. Elle est plus manœuvrière ou rusée ou dissimulée.
Mais elle n'est pas moins violente.
Et son accession au pouvoir vient de sa violence et le salaire de sa violence. Ça, c'est le côté shakespearien ou crépusculaire de la chose. Mais il n'y a pas d'exercice féminin du pouvoir. Il n'y a pas, pour moi, d'exercice masculin du pouvoir. Il y a des accessions masculines et féminines, mais l'exercice doit s'en dissocier. Et donc, comme tout homme et toute femme ont droit au féminin et au masculin, tout homme ou femme de pouvoir a droit au féminin ou masculin dans l'exercice de ce pouvoir, sachant que le pouvoir qui était très masculin, le pouvoir en général, qui était très masculin, est en train de devenir plus féminin, plus participatif, moins... alors peut-être que Macron va faire autrement avec Jupiter, et non Junon. Mais il y a aujourd'hui, Hollande l'a prouvé, était extrêmement féminin, classique, je veux dire, dans son exercice du pouvoir. Donc il essayait d'apaiser, il essayait de synthétiser, il essayait de... et Claire Underwood, elle, pour revenir à elle, effectivement, n'est pas un personnage féministe, même si son accession au pouvoir est aussi une victoire féministe.
Elle l'est si peu que dans la première saison, elle est posée comme étant même anti-femme, puisque une des premières choses qu'on la voit faire, c'est quand elle est encore chef d'entreprise, elle vire une de ses employées en lui supprimant les assurances sociales qui lui, voilà, à une femme. Donc elle se constitue même contre les femmes.
Enfin, elle se constitue contre qui peut entraver son évolution. Et elle ne fait pas de différence homme-femme.
C'est ça. Alors, un critique américain a dit, ça me paraît plutôt une incompréhension de ce qu'est la fiction, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, Luc Levaillant, c'est la série la plus Tea Party qu'on ait jamais produite.
Je ne sais pas. Je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas le côté réactionnaire sociétal des personnages dans leurs propositions. C'est malgré tout, ils ont malgré tout une sorte de background démocrate. Donc, le côté quand même anti-avortement, le côté peine de mort, le côté... Alors, ça ne les empêchera pas ensuite d'instrumentaliser les problèmes islamistes pour s'en servir et pour vendre de la sécurité au peuple. Mais je dirais qu'au départ, ils ne sont pas quand même dans un fonctionnement ultra-réactionnaire comme l'était Sarah Palin ou...
Est-ce que vous ne diriez pas que, pour finir ou presque, House of Cards n'est pas un signe, au fond, de ce que la démocratie est assez forte pour montrer sans danger la façon dont le pouvoir est exercé? Une série comme ça ne serait pas possible en Russie, en Turquie, mais les États-Unis, oui.
Oui, c'est vrai. Non, mais il y a aussi ce génie américain ou occidental de produire et de recycler sa propre critique, enfin, et de mettre en scène. Non, ce qui m'intéresse plus, c'est effectivement cette mise en scène croisée du réel et de la fiction, et comment ça se phagocyte et ça s'éjecte et ça tourne en, c'est une sorte de, ça crée une sorte de tourbillon et dans lequel on ne sait plus bien mais parce que on ne l'a jamais su, sans doute, que la part du réel et de la fiction. Après, le réel, de temps en temps, et oui, il y a une bombe qui explose, ou un ouragan qui arrive, voilà. Mais cette fiction, parfois, l'anticipe. Donc,
Luc Levaillant, qu'est-ce que vous a appris Claire Underwood?
Que le pouvoir, justement, n'est ni féminin ni masculin, qu'il n'y a pas une façon féminine d'exercer le pouvoir, qu'il n'y a pas une façon masculine, enfin, que du moins, c'est en train de se mélanger, et ce qui me semble une bonne chose.
C'était un grand jeudi, tous les jours paradis, de l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon?
Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Daphné Abgral, prise de son Bruno Mourlan.
Sans rêves qui nous savent.